Vous écoutez France Culture.
Vous écoutez France Culture, il est 12h30. C'est l'heure du journal de la rédaction. Avec vous, Ilan Malka, bonjour.
Bonjour Romain, bonjour à tous. En Italie, Atlantia, maison mère de la société Autostrade qui gère les autoroutes, est dans le viseur du gouvernement. Le ministre de l'Intérieur, Matteo Salvini, s'en prend à elle sur Twitter. Il dénonce l'impassibilité incroyable d'Atlantia après la catastrophe de Gênes. À noter également que le titre d'Atlantia a perdu plus de 24% à la bourse de Milan ce matin. Une chute vertigineuse. Nous entendrons les précisions de notre correspondant Antonino Gallofaro. Au Mali, le président Ibrahim Boubacar Keïta est réélu pour un nouveau mandat de 5 ans. Les résultats ont été proclamés ce matin. Le sortant a donc réuni un peu plus de 67% des voix au second tour. Correspondance de Marie Matigo dans cette édition. Et puis nous partirons également en Allemagne qui s'apprête à reconnaître un troisième genre. À côté de féminin ou de masculin pourrait donc être mentionné le mot « divers ». Le pays pourrait bien être précurseur en Europe en la matière, nous dira Anne Fauquemberg. À 12h45, on vous retrouve pour la grande table d'été. Antoine de Romain de Bec de Lièvre, de quoi sera-t-il question?
Il sera question de deux photographes qui exposent aux rencontres d'Arles en première partie et en seconde partie un portrait de la romancière américaine Nicole Krauss.
À tout à l'heure. En Italie, tout d'abord, les secouristes recherchent toujours des survivants parmi les blocs de béton suite à l'écroulement ce mardi d'un viaduc sur l'autoroute A10. Le dernier bilan de cette catastrophe de Gênes est de 38 morts. La police a revu le chiffre à la baisse. Hier, elle annonçait celui de 39. Par ailleurs, la polémique ne faiblit pas au sujet d'Autostrade, la société qui gère les autoroutes. Elle est pointée du doigt par le gouvernement italien. Atlantia, qui est la maison mère d'Autostrade, a vu son cours s'effondrer en bourse, une chute vertigineuse. Le titre a perdu plus de 24% à la bourse de Milan ce matin. Antonino Gallofaro.
Les échanges entre les ministres du gouvernement populiste italien et les dirigeants derrière le gestionnaire de partie des autoroutes deviennent plus âpres après le leader du mouvement 5 étoiles Luigi Di Maio hier autour de Matteo Salvini aujourd'hui. Le virulent leader de la Ligue à l'extrême droite et ministre de l'Intérieur était resté discret mais ce matin il dénonce l'hypocrisie d'Atlantia et d'Autostrade en des termes peu courtois. Alors que la société chute en bourse, qu'elle évoque les pertes pour ses actionnaires, Matteo Salvini demande à ceux qui ont le portefeuille plein de demander pardon et de donner le nom des responsables. Responsable du désastre. Pour Atlantia, la révocation de sa concession par l'État a été faite sans indiquer aucune contestation spécifique et en l'absence de vérification sur les causes du drame. La société rappelle enfin qu'il existe des pénalités si un contrat est révoqué. Comme ligne de défense, Autostrade per l'Italia affirme que tout était en règle. Avoir investi plus d'un milliard d'euros par an dans la sécurité et l'entretien de son réseau, avoir utilisé des appareils hautement sophistiqués pour les contrôles tout en respectant les normes indiquées par la loi. La société a aussi promis de reconstruire le pont en 5 mois, mais c'est sans compter sur l'opposition du gouvernement.
Et Rome hésite donc sur la sanction à infliger à Autostrade au lieu d'une révocation de la concession autoroutière qui impliquerait une longue procédure judiciaire et sans doute une importante indemnisation au groupe. Le gouvernement pourrait finalement opter pour une amende. Suite à cette catastrophe de Gênes, le premier ministre bulgare Boyko Borisov demande une rénovation simultanée de tous les ponts dans son pays, pays à l'infrastructure délabrée. Selon le gouvernement ukrainien, 211 ponts, dont la plupart construits il y a 35-40 ans, sont en mauvais état dans le pays. Il est donc urgent d'intervenir. Il y a exactement une heure, les résultats de l'élection présidentielle malienne ont été dévoilés. Le président sortant Ibrahim Boubacar Keïta a donc été réélu pour un nouveau mandat de 5 ans avec 67,17% des voix au second tour. Ces résultats vont maintenant devoir être validés par la Cour constitutionnelle. Bonjour Marie Matigo.
Bonjour.
Vous êtes donc en direct du Mali. Ce résultat ne constitue pas exactement une surprise.
Eh non, on s'y attendait puisque Ibrahim Boubacar Keïta était parti favori de ce scrutin et l'annonce de sa réélection a été accueillie par des cris de joie à son quartier général. Il a donc été réélu avec une large victoire, hein, 2/3 des voix, même si c'est un petit peu moins qu'en 2013. Face à lui, le chef de file de l'opposition, Soumaïla Cissé, a lui recueilli 32% des voix. Un autre chiffre que l'on scrutait de près, c'est celui de la participation. Et comme on s'y attendait, elle est en baisse, 34%. Seulement un électeur sur 3 s'est déplacé aux urnes pour ce second tour. C'est moins qu'au premier tour. Un chiffre en baisse qui a plusieurs explications. Tout d'abord, un certain désintérêt pour ce duel déjà vu entre Ibrahim Boubacar Keïta et Soumaïla Cissé. C'était le même qu'en 2013. Les intempéries aussi, hein, de nombreux bureaux de vote ont été inaccessibles à cause des pluies. Et puis l'insécurité, près de 500 bureaux de vote ont été fermés à cause de certaines violences. Un président de bureau de vote a notamment été tué lors de ce second tour. Alors les résultats sont déjà en partie rejetés par le chef de file de l'opposition qui a déjà dénoncé des fraudes hein, depuis le premier tour. Encore hier soir, son équipe de campagne a diffusé une vidéo dans laquelle on voit deux personnes signer un registre des électeurs à la chaîne. Les observateurs nationaux du COSEM ont également relevé des irrégularités, cette fois pour le premier tour, avec dans certains endroits davantage de votants que de cartes d'électeurs retirées. Soumaïla Cissé donc devrait donc déposer des recours devant la Cour constitutionnelle. Il a 48 heures pour le faire, pour contester les résultats. La Cour constitutionnelle devra ensuite valider les résultats la semaine prochaine. Cela pourrait peut-être prendre un peu de temps parce qu'il y a l'Aïd, la Tabaski, comme on dit ici, qui devrait arriver mardi, qui devrait un peu ralentir le processus électoral puisqu'ici tout s'arrête pendant deux jours. L'investiture du futur président est ensuite prévue pour le 4 septembre. Et puis, dernière chose à noter, c'est que le réseau Internet est très perturbé depuis ce matin pour une raison encore inconnue. De nombreux utilisateurs ont de grandes difficultés à se connecter via la 3G ou via la 4G.
Merci à vous, Marie Matigot. Cette semaine est décidément particulièrement sanglante en Afghanistan. Ce matin, des hommes armés ont lancé une attaque contre un centre d'entraînement des services de renseignement à Kaboul. L'attaque n'est pas encore revendiquée à ce stade. Hier, un attentat suicide contre une école d'un quartier chiite de Kaboul a fait au moins 34 morts. Il a été revendiqué ce matin par Daesh. Mardi, les talibans ont réussi à s'emparer d'une base militaire dans le nord-ouest et jeudi dernier, ils avaient lancé un assaut sur la ville de Ghazni que l'armée afghane a mis plusieurs jours à repousser. Mathieu Laurent a joint au téléphone Olivier Weber, grand reporter et écrivain qui ne cesse de parcourir ces terres afghanes. Il était il y a peu à Ghazni.
C'est une montée en puissance qui intervient au moment où on négocie du côté de certaines diplomaties occidentales et américaines, en particulier à Doha, entre donc les États-Unis et les talibans. Et un moment aussi où les Nations Unies ne cessent de dire qu'il n'y a pas de solution militaire en Afghanistan. La solution ne peut être que politique, c'est-à-dire négocier, c'est-à-dire aussi avec les ennemis, c'est-à-dire avec les talibans. C'est aussi une sorte de surenchère dans l'audace, quelquefois aussi dans la barbarie, dans la cruauté entre le mouvement des talibans traditionnels, on va dire, en Afghanistan maintenant depuis 20 ans, et puis ce mouvement qui est apparu il y a quelques années, qui s'appelle Daesh Khorasan, donc c'est le Daesh, donc l'État islamique local en Afghanistan. Et là donc on assiste à une sorte de surenchère politique, médiatique et militaire entre les deux mouvements.
Olivier Weber, est-ce que justement les talibans ne pourraient-ils pas être un recours, entre guillemets, avec beaucoup de guillemets, face aussi à la puissance de la section afghane de Daesh?
Alors évidemment, certains le pensent, y compris dans les diplomaties occidentales, dans certaines capitales. Les Afghans au pouvoir disent qu'on ne peut négocier qu'avec certains talibans. Évidemment pas les plus barbares, pas les plus sanguinaires. La population, elle, bien sûr, hélas, de ces 17 ans de guerre depuis 2001, c'est même une guerre qui date depuis 40 ans, depuis 1978-79. Donc vous avez pratiquement deux générations qui n'ont connu que la guerre. Cela dit, il faut être extrêmement prudent. Cette surenchère aussi, elle est un peu stratégique, on va dire. Daesh, Khorasan, donc le Daesh, l'État islamique afghan, n'est pas si puissant que cela. En revanche, les deux mouvements, les talibans et l'État islamique, sont en train de démontrer, on va dire depuis un an et demi, qu'ils peuvent frapper où ils veulent, quand ils peuvent.
L'écrivain et reporter Olivier Weber, donc auteur notamment du livre « L'enchantement du monde » chez Flammarion, il était au micro de Mathieu Laurent. Les autorités américaines et mexicaines annoncent aujourd'hui la création d'une équipe conjointe chargée de lutter contre les cartels de la drogue. Cette équipe sera basée à Chicago. Le nouveau président mexicain López Obrador avait déclaré qu'il souhaitait justement rétablir des relations avec les États-Unis, des relations qui sont difficiles depuis la présidence de Donald Trump. Il avait également, López Obrador, promis de lutter contre le trafic de drogue avec une nouvelle stratégie. Aux États-Unis, une amende record de 4,1 milliards d'euros. C'est ce que va payer la RBS, la Royal Bank of Scotland, au département de la justice américain. C'est ce que l'on a appris donc cette semaine. En cause, les agissements de la banque pendant la crise des subprimes qui a ébranlé l'économie mondiale en 2008. Bonjour Elia Bergel.
Bonjour Ilan, bonjour à tous.
Il s'agit là de l'amende la plus importante imposée à une entité unique dans le cadre de cette crise financière.
Oui, en payant cette amende record de 4,1 milliards d'euros, la Royal Bank of Scotland espère tourner la page de la crise des subprimes de 2008. La banque avait alors mis sur le marché des prêts hypothécaires toxiques, complexes, destinés à des ménages à la solvabilité douteuse. Avant la crise déjà, la RBS avait grossit de manière incontrôlée. Cette expansion reposait sur des pratiques opaques qui ont également fait l'objet de sanctions financières. Entre 2016 et 2017, la banque a dû s'acquitter de 2 amendes d'un montant total de près de 5,9 milliards d'euros auprès d'administrations américaines. Aujourd'hui, la RBS a réduit sa voilure et s'est recentrée sur le Royaume-Uni avec moitié moins d'effectifs. De plus, l'État britannique, qui a beaucoup dépensé pour sauver la RBS de la crise, souhaite se désengager de son capital. Pourtant, cette amende record intervient dans une conjoncture favorable pour la banque. La RBS est rentable en 2017 pour la première fois depuis la crise des subprimes. Des dividendes vont être versés aux actionnaires, ce qui n'était plus arrivé depuis 10 ans. Mais l'image de la RBS reste tout de même bien négative. Le classement des meilleures banques de Grande-Bretagne a été publié hier et la Royal Bank of Scotland est celle que les Britanniques recommanderaient le moins à leurs proches.
Merci à vous, Elia Bergel. L'Allemagne s'apprête à reconnaître un troisième genre sur les certificats de naissance. À côté de féminin ou de masculin pourrait donc être mentionné le mot « divers » pour les personnes concernées. Bonjour Anne Fokkenberg.
Bonjour.
Cette loi doit encore être approuvée par la Chambre des députés, mais l'Allemagne est bien parti pour être un pays précurseur en Europe sur cette thématique.
Oui, la Cour constitutionnelle a en effet donné aux députés jusqu'à la fin de cette année pour voter la légalisation de ce troisième sexe, ce qui effectivement constituera une petite révolution en Europe. En Allemagne, la société est prête. Depuis 2013, à l'état civil, les transgenres, qui seraient environ 160 000, pouvaient déjà décider de laisser vide le champ relatif au genre. Alors que cette évolution législative arrive dans ce pays n'étonne pas Louis-Georges Thin, le fondateur de la Journée mondiale contre l'homophobie et la transphobie. L'Allemagne, c'est le pays du sexologue Magnus Hirschfeld qui avait pensé il y a 150 ans cette catégorie de personnes qui ne superposent pas leur identité de sexe et de genre.
Magnus Hirschfeld était un sexologue qui était à la fois juif et homosexuel, qui a beaucoup travaillé, qui a été plus que persécuté dans le contexte de la montée du nazisme. Mais déjà, il demandait au début du siècle la reconnaissance des droits des homosexuels et des personnes transgenres. Donc l'Allemagne sera le premier pays européen, mais pas le premier pays au monde. Donc voilà, il y a une dynamique internationale, c'est le droit tout simplement.
Deux autres pays en Europe sont engagés dans cette voie. En mai dernier, aux Pays-Bas, la justice a autorisé l'inscription « Le sexe n'a pas pu être déterminé pour un citoyen à l'identité intersexuée », décision qui ouvre la voie à un processus législatif. Et puis tout comme en Allemagne, en Autriche, ce qui ne plaît pas d'ailleurs aux nationalistes du FPO, au gouvernement, la Cour constitutionnelle autorise aussi depuis juin dernier les transgenres à ne pas renseigner l'état civil binaire qui est proposé. On imagine aussi que la législation va évoluer. En France, cette question de l'état civil n'est pas sur l'agenda des politiques, mais il faut dire que les autorités ont été les premières au monde à retirer le transsexualisme de la liste des maladies mentales. C'était en 2010, faisant ainsi évoluer l'Organisation mondiale de la santé.
Merci à vous Anne Fokkenberg pour ces précisions. Le nom du nouveau dirigeant d'Air France KLM sera peut-être connu aujourd'hui. Il pourrait s'agir du Canadien Ben Smith, numéro 2 d'Air Canada. Sa nomination est attendue dans l'après-midi à l'issue d'un conseil d'administration. Ce qui est sûr, c'est que cette probabilité ne fait pas le bonheur des syndicats. Ils sont même vent debout contre cette possible décision. 9 d'entre eux jugent inconcevable de nommer un dirigeant étranger aux commandes d'Air France KLM. Bonjour Annabelle Grelier.
Bonjour Ilan.
Donc on ne connaît pas encore le nom du futur dirigeant, puisqu'il peut toujours y avoir des surprises. Mais ce qui est connu, c'est la situation qu'il va trouver.
Oui, d'un point de vue financier, la situation n'est pas catastrophique. Grâce à un environnement économique favorable, la baisse du prix des hydrocarbures et l'augmentation du trafic passager, les résultats d'Air France KLM restent dans le vert malgré les grèves du printemps. Le bénéfice net est de 109 millions d'euros sur la période d'allant d'avril à juin, une hausse bien moindre que celle de l'année 2017, qui avait été quand même une année record, mais une hausse tout de même. Le problème est que les concurrents, eux, ont engrangé bien plus de bénéfices qui vont leur permettre d'être plus fort dans la course aux parts de marché. Non, le grand malaise chez Air France, c'est la médiocrité de son dialogue social. Entre une direction qui ne sait pas communiquer ni ses décisions, ni son projet à ses salariés, et des syndicats qui campent souvent sur des positions intransigeantes. Une des raisons pour laquelle, sans doute, le conseil d'administration cherche à l'international un nouveau PDG. Une nouvelle méthode, une méthode peut-être plus pragmatique, plus efficace, une méthode anglo-saxonne que porte la candidature du Canadien Ben Smith. L'homme qui travaille depuis 2002 chez Air France France. Il est responsable des transports aériens de la compagnie et chef de l'exploitation. Il est surtout réputé pour avoir signé avec les deux syndicats des personnels navigants des accords sur l'organisation d'Air Canada et sa low cost Air Canada Rouge sur une durée de 10 ans. Alors est-il de taille à négocier avec les syndicats français? Saura-t-il ramener la confiance et l'apaisement au sein de la compagnie? En tout cas, les pilotes l'attendent de pied ferme avec préavis de grève sur les négociations sur les salaires si en tous les cas elles ne reprennent pas dès septembre.
Annabelle Grelier, cet après-midi, il pourrait y avoir quelques averses sur l'Ille-et-Vilaine, la Normandie et les Hauts-de-France, peut-être quelques gouttes également sur les Hautes-Alpes. Le ciel pourrait également être nuageux tout au sud-ouest, mais sur le reste du pays, ce sera ensoleillé. Les températures maximales seront voisines de 20 à 23 degrés de la Bretagne aux côtes de la Manche. Elles seront estivales ailleurs avec 29 à 33 degrés. Cette édition a été préparée avec Yacine Bouzard. Elle a été réalisée à la technique par Anthony Thomassin.